Limoilou. De Bamako à Lévis. De Ushuaïa à Québec. De Tokyo à New York.
No country alone can solve this challenge.
On peut avoir des objectifs radicaux parce que la situation exige qu'on soit radical.
Du 191 rue Saint-Paul à Québec, à nous la terre.
Cette semaine à l'émission, agriculture industrielle, révolution agroécologique et système alimentaire avec Alain Olivier, professeur en sciences de l'agriculture et de l'alimentation à l'Université Laval. Vous écoutez À nous la terre. Les lourds impacts sociaux et environnementaux de l'agriculture industrielle nous obligent à trouver des alternatives à ce modèle qu'il est difficile de ne pas voir comme désuet. Il s'est toutefois tellement imposé dans notre imaginaire, marqué par le progrès technique, qu'il semble difficile de penser à le remettre en question. Ce passage, extrait du livre d'Alain Olivier, dont nous parlerons aujourd'hui, illustre assez bien le niveau de contamination de nos imaginaires parce qu'on a pris l'habitude de nommer le progrès. Mais lorsqu'on y prête une attention particulière, ce progrès en agriculture apparaît généralement comme une accumulation de pratiques favorables à la dégradation des écosystèmes et à l'aliénation des relations dites territoriales ou paysannes. Face au modèle de l'agriculture industrielle qui affecte tant les relations entretenues avec les milieux dits naturels que les dynamiques sociales et économiques, plusieurs proposent des systèmes alimentaires plus respectueux des réalités territoriales et des communautés du vivant. Des modèles qui s'éloignent d'une gestion technocratique pour se rapprocher de la terre et qui visent plus largement à renouer la nature avec la culture dans une perspective de coévolution. Nous en discutons aujourd'hui avec Alain Olivier, pour qui l'agroécologie se présente comme un modèle révolutionnaire permettant à la fois de rompre avec les réalités imposées par l'industrie, de renouer avec des pratiques paysannes et territoriales respectueuses des sols et d'adresser globalement des enjeux alimentaires comme la souveraineté, la diversité et l'équité, et de remettre en cause les modèles politiques qui organisent nos relations avec les humains et les non-humains. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Alain Olivier, bonjour.
Bonjour, merci.
Vous êtes professeur à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval, titulaire de la chaire en développement international et directeur du groupe interdisciplinaire de recherche en agroforesterie, le GIRAF. En 2014, vous avez reçu le prix international La Recherche, mention environnement, et le prix d'excellence en enseignement de l'Université Laval pour l'internationalisation de la formation en 2016. Cette année, donc 2021, vous avez publié le livre « La révolution agroécologique, nourrir tous les humains sans détruire la planète » chez les éditions Éco-Société. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Ça me fait plaisir.
On aimerait, pour commencer cette discussion, aborder la question de l'agriculture industrielle. Non seulement par rapport aux impacts négatifs qu'elle peut avoir sur la planète, mais aussi pour son incapacité à accomplir la mission qui est la sienne, c'est-à-dire de nourrir les humains de la planète. Quel rôle joue l'agro-industrie dans la transformation des écosystèmes et des sociétés, particulièrement des communautés paysannes à travers la planète?
Effectivement, il y a 800 millions de personnes, en fait plus de 800 millions de personnes qui souffrent encore de la faim sur la planète. Donc la question de l'insécurité alimentaire, la question de la pauvreté, des injustices sociales liées à l'alimentation est vraiment pas réglée. Puis l'agriculture industrielle, malgré le fait qu'elle n'arrive pas à nourrir ces personnes, puis là, bon, on mentionne pas non plus toutes les personnes qui souffrent de carences alimentaires à certaines périodes de leur vie. Donc, cette agriculture industrielle marque par ailleurs fortement notre environnement. On le sait, érosion des sols, destruction de la biodiversité, changement climatique. C'est un système qui a artificialisé beaucoup notre environnement et donc qui transforme nos écosystèmes, mais aussi nos sociétés de façon très, très importante. L'agriculture est intégrée partout à l'industrie, y compris chez les paysans, les paysannes les plus démunis qui vont être intégrés souvent dans leurs activités là, à une industrie. Je m'en suis rendu compte particulièrement dans la jeune vingtaine, quand j'ai eu l'occasion d'aller en Afrique, j'arrivais là avec une formation agronomique assez classique. Hein. J'étais convaincu, bon, comme vous disiez au début, hein, de l'importance du progrès très technique. On était convaincu à ce moment-là que le problème de la faim, on allait le régler avec des variétés améliorées, des engrais chimiques, des pesticides, puis des grosses moissonneuses batteuses, des ouvrages d'irrigation. Mais petit à petit, on s'est rendu compte que ça avait des impacts négatifs sur notre environnement, mais aussi des impacts sociaux auprès des paysans, des paysannes, par exemple, qui finissaient par devenir plus dépendants envers les gens qui pouvaient produire les semences, les producteurs d'engrais, les fournisseurs de pesticides, puis vulnérables envers les marchés de plus en plus internationaux. Puis, avec les changements climatiques, on le voit, vulnérable même envers les pluies, envers des nouveaux ravageurs. Donc, on a un système qui, non seulement nourrit pas tout le monde, détruit la planète, mais rend aussi ceux et celles qui nous nourrissent plus dépendants et plus vulnérables.
On peut penser, par exemple, dans les régions agricoles du Québec, à la création de véritables déserts alimentaires, en fait, à des endroits où il y a pas si longtemps eu possibilité d'une certaine forme d'autosubsistance parce que une variété de production pouvait avoir lieu sur un même territoire. Aujourd'hui, avec la spécialisation, avec la concentration vers la production pour l'agro-industrie, on parle plutôt de des déserts alimentaires.
Ben oui, puis il y a quelque chose d'absolument aberrant dans le fait que ben, ces déserts alimentaires-là, ils sont pas seulement en ville. Mais, puis d'ailleurs, quand ils sont en ville, ils sont surtout dans des quartiers plus défavorisés, hein, mais ils se retrouvent aussi en campagne. On peut se promener en campagne, puis être dans un village qui est entouré de champs, puis on ne trouve pas d'épicerie, on trouve peut-être un dépanneur, mais un dépanneur dans lequel il n'y a pas du tout de produits du lieu, parce que ce qu'on fait, c'est du maïs, du soya, qui est là pour une certaine industrie, et non pas nécessairement pour nourrir les gens directement là, de la localité.
C'est assez intéressant. On comprend donc dans ce contexte-là que le système agroalimentaire ne fonctionne pas réellement en premier lieu pour nourrir les humains de la planète, mais bien dans une logique qui est liée aux impératifs de profit.
Ben oui, c'est sûr que quand on fait de l'agriculture, ben ça peut être pour nous nourrir, mais très souvent, c'est pour faire des profits. Et puis c'est particulièrement vrai là, dans une dynamique agro-industrielle. D'ailleurs, l'agriculture sert pas seulement à produire des aliments, hein. Elle sert aussi à produire bon des aliments pour des animaux qui eux vont nourrir par la suite, mais bon, où il y aura quand même une certaine perte, je dirais, d'énergie calorique ou protéique par la suite, le plus souvent, mais aussi pour faire du sucre, pour faire de l'éthanol aussi, hein. Il y a grosso modo, là, depuis une dizaine d'années, à peu près 40 % de la production de maïs en Amérique du Nord qui sert à la production d'éthanol. Donc, l'éthanol, c'est pas pour nous nourrir, c'est pour, on pourrait dire que c'est pour tanker nos chars, là, comme j'aime bien le dire. Puis, en fait, quand on regarde la production de céréales mondiales, puis les céréales, c'est pas un produit mineur, c'est quand même la base des calories alimentaires pour la très grande majorité des gens de la planète, bien, il y a seulement environ 42 % des céréales produites dans le monde qui sont consommées directement par les humains. Il y en a 36 % qui servent à l'alimentation animale, puis il y en a 22 % qui servent à des produits industriels comme l'éthanol, par exemple. Donc, quand on dit que l'agriculture est là uniquement pour nous nourrir, ben c'est pas tout à fait vrai. Puis quand on dit aussi qu'on n'a pas de marge de manœuvre pour changer les choses, ben là aussi, c'est pas vrai. Juste avec les 22 % par exemple des céréales qui servent à des produits industriels, on a une marge de manœuvre. On a une marge de manœuvre aussi en lien avec l'alimentation animale. Puis si on regarde aussi tout ce qu'on gaspille, ben là, notre marge de manœuvre est vraiment réelle pour faire les choses autrement que ce qu'on fait actuellement. Hein, il y a eu une étude là récemment au Canada, qui indique que 58 % de ce qui est produit en agriculture au Canada est gaspillé. Puis c'est pas nécessairement seulement les gens, les consommateurs, hein, ceux qu'on aime bien appeler les consommateurs et consommatrices qui gaspillent, mais ce gaspillage, il se fait beaucoup dans l'industrie alimentaire, dans la transformation, dans la distribution, il se fait aussi sur le terrain. Donc, c'est sûr que l'agro-industrie a beaucoup marqué ce qu'on va faire et nourrit pas nécessairement tout le monde. Et moi, ce que je vois d'intéressant dans tout ça, peut-être pas pour le présent, mais pour le futur, c'est qu'on voit très bien, quand on regarde ce qu'on fait avec nos produits agricoles, qu'on a une marge de manœuvre pour faire les choses autrement.
C'est particulièrement vrai que les agriculteurs ne produisent pas nécessairement pour se nourrir, puis c'est particulièrement vrai aussi dans les pays de ce qu'on a appelé le sud global, où des céréales qui font pas nécessairement partie de l'alimentation des gens sont cultivées quand même assez massivement, d'après ce que je comprends.
Oui, puis en fait, c'est important de souligner le rôle des paysans, paysannes des pays du sud global, entre autres, qui produisent une quantité beaucoup plus importante des aliments qu'on consomme que ce qu'on pense généralement pour les céréales, puisqu'on est en train de parler des céréales. Bien, en fait, il y a seulement un huitième des céréales dans le monde qui sont produites par les pays, disons, où la productivité moyenne est de plus de 3 tonnes à l'hectare, c'est-à-dire les pays qui produisent, qui ont le plus grand rendement. La moitié de la production vient de pays où la production est beaucoup plus faible. En fait, c'est les paysans, les paysannes les plus démunis qui nourrissent l'humanité.
Mm-hmm. Et vous parlez beaucoup dans votre livre de ce que vous avez appris justement avec des paysans, entre autres au Burkina Faso. Vous parlez souvent de Yacouba, votre ami, qui vous a ouvert les yeux en fait sur les contradictions peut-être de l'agro-industrie, sur les soi-disant avancées que l'agro-industrie pourrait faire, puis qui en fait nuisaient beaucoup au mode de vie puis aux manières de faire que les paysans avaient.
Oui, bien c'est important. Hein. Je l'ai souligné un petit peu tout à l'heure en introduction, mais je dirais que c'est vraiment quelques séjours en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, au Mali et en Côte d'Ivoire, qui m'ont fait prendre conscience du fait que produire des aliments, c'est pas simplement produire une plante donnée sur une terre donnée dans un court laps de temps, sur 3 ou 4 mois, par exemple, mais c'est vraiment gérer un agro-écosystème complexe, surtout si on veut penser à une production durable dans le temps, qui est soutenable, puis qui va nourrir toute la planète, mais pas seulement aujourd'hui, mais qui va la nourrir pour les prochaines générations également. Et c'est à partir, en fait, de ces expériences-là que j'ai commencé à réfléchir sur nos modes de production puis sur le système alimentaire en général aussi, parce que ce qu'on fait dans le champ, hein, je me répète un peu, mais il n'est pas indépendant de tout un système qui est autour. On va produire ce qu'une industrie, par exemple, va nous demander en fonction des prix aussi qu'on va nous offrir, puis en se servant des intrants et de l'équipement qu'on va mettre à notre disposition.
Est-ce que la modernisation du système agricole est tellement avancée ici qu'il faut aller au Burkina Faso peut-être pour constater qu'il y a déjà eu d'autres manières de réfléchir l'agriculture?
Ben oui, peut-être. Moi, j'ai travaillé par exemple sur des essais d'amélioration variétale, donc où on essayait d'améliorer le sorgho pour la résistance à un certain nombre de parasites. Puis moi, quand je faisais ça, bien, j'étais tout content de voir qu'il y avait des variétés qui semblaient très intéressantes, résistantes, avec un bon rendement. Mais quand je montrais ça aux paysans, bien, les paysans me disaient « ça ne m'intéresse pas ces variétés-là, je préfère telle autre variété ». Puis quand je regardais cette autre variété qu'ils préféraient, bien, plus souvent qu'autrement, c'était la variété traditionnelle, celle qu'on voulait remplacer en fait par nos nouvelles variétés améliorées. Puis si je demandais pourquoi, bien, ils disaient des choses comme les variétés que tu nous proposes sont pas mangeables. Puis moi, je mange du sorgho tous les jours de l'année. J'aimerais manger quelque chose que j'ai du plaisir à manger. Ils me disaient aussi, bien, c'est plus difficile, ça prend plus de temps à chauffer, donc ça me prend plus de bois de feu. Le bois est loin, il faut que j'aille en chercher. Il me disait aussi, cette variété-là, elle pousse bien seulement si on lui fournit des engrais chimiques, s'il y a des bonnes pluies. S'il n'y a pas de pluie, elle ne produira pas. Puis moi, il faut que je mange tous les ans. Là. Je ne peux pas manger juste 3 années sur 4. Donc, il faut que j'aie aussi une production stable. Donc, à partir de ces questions-là, c'est sûr que ça m'a amené à réfléchir sur l'objectif premier de l'agriculture puis nos façons de faire. Moi, j'avais appris que, d'une certaine façon, que tout ce qui était important, c'est un rendement donné à court terme. Et je me suis rendu compte que pour le paysan, la paysanne, il y avait beaucoup d'autres dimensions qui comptaient. Puis là, je ne parle pas de, d'autres dimensions de nature plus sociale ou territoriale, par exemple, qui, elles aussi, sont, sont importantes pour des êtres humains.
C'est donc que le modèle agro-industriel, finalement, même dans sa quête de rendement et de profitabilité, finit par, par en fait mettre en place des systèmes qui sont très fragiles, ou disons vulnérables, et qui sont, dans une, qui sont implantés dans une perspective de très court terme.
Oui, parce que ouais, on a, au lieu de s'adapter à, au contexte, bien, on a très souvent voulu adapter le contexte aux pratiques qu'on voulait mettre en place. Hein, c'est quand même assez troublant de constater qu'on cultive le, à peu près le même soya en Amazonie, en Indonésie, en France, au Québec, alors qu'on est dans des contextes sociaux, culturels et territoriaux et climatiques, etc., complètement, complètement différents. Donc, en agroécologie, par exemple, on va s'intéresser beaucoup au contexte. On va se dire, au lieu de, d'adapter le contexte à des pratiques qui ne sont pas adaptées, bien, on va essayer d'avoir des pratiques qui sont adaptées au, au lieu exact où on se trouve.
Et donc, qu'est-ce qui différencie l'approche que vous mettez de l'avant, l'agroécologie, de l'agriculture telle que ce, qu'elle se pratique un peu partout actuellement?
Oui. Bien, il y a cet aspect là, que je viens de mentionner de contextualisation qui est très important pour l'agroécologie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas nécessairement la même chose partout. Il faut s'adapter au contexte dans lequel se trouvent les gens qui vont nous nourrir. Et ce contexte-là, bien, c'est, il est lié au sol, il est lié à la pluviométrie, il est lié à la température, mais il est lié aussi aux habitudes alimentaires, au territoire, à la famille, aux, aux autres besoins qu'on va avoir, des besoins d'éducation, de solidarité sociale, par exemple. Mais disons que si on veut faire une définition de l'agroécologie, brièvement, on pourrait dire que c'est la rencontre de l'agriculture et de l'écologie. Mais en fait, c'est plus que ça. En agroécologie aussi, on se préoccupe d'enjeux sociaux qui sont beaucoup plus globaux, comme la, la pauvreté paysanne, l'aménagement du territoire, l'accès aux, aux semences, des éléments de justice sociale aussi. Ce qui fait que moi, j'aime bien dire que l'agroécologie, c'est pas seulement une science, c'est pas seulement des pratiques aussi, mais c'est un mouvement social dans lequel, oui, on met des, les mains dans la terre, mais on garde aussi les yeux fixés sur notre communauté, sur notre territoire. On s'intéresse à tout le système alimentaire, de la parcelle à l'assiette, parce que ce qu'on fait dans nos parcelles, ben, n'est pas indépendant de tout le reste, évidemment. On est des êtres humains avec d'autres besoins que des besoins strictement économiques.
Mm-hmm. Puis dans cette démarche-là, bon, on en a parlé un peu par rapport au, au savoir-faire des paysans, mais il semble y avoir une assez grande importance qui est donnée justement à ce qui est la contextualisation, à ce qui est peut-être donner de l'importance aux savoirs qui sont ancrés sur les différents territoires qui peuvent varier d'un endroit à l'autre. Ces savoirs-là avaient pu être exclus par la science moderne, mais l'agroécologie, qui a des fondements scientifiques, semble peut-être se situer dans un aller-retour entre ces deux manières-là de connaître, en fait, qui sont peut-être pas si différentes que ça, au final.
Bien, en fait, on se rend compte de plus en plus que produire des aliments, c'est vraiment pas juste une affaire de, d'artificialiser un territoire pour viser un rendement maximal d'une culture donnée à un temps X. Sinon, bien, on se rend compte qu'on détruit nos sols, par exemple, qu'on active des changements climatiques, qu'on dépeuple notre territoire, puis on se trouve à avoir à long terme bien, un système qui n'est plus capable de produire. Donc, produire des aliments, c'est surtout gérer un écosystème qui est complexe sur le long terme et non pas un agro-système appauvri sur le court terme. Puis, bien, il se trouve que les paysans, les paysannes sont souvent des experts en la matière. C'est sûr qu'il faut adapter les pratiques. On ne peut pas faire la même chose qu'autrefois, qu'il y a 100 ans, par exemple, parce que le contexte n'est plus le même. Mais il en demeure pas moins que les gens qui font de l'agriculture doivent fonder leurs décisions sur toutes sortes de facteurs très complexes qu'on a parfois de la difficulté à aborder scientifiquement. Et ce travail-là, ben, il a une valeur. On a beaucoup à apprendre des connaissances, en fait, que vont acquérir les agriculteurs, les agricultrices dans leur travail. Puis, en fait, moi, ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que c'est le paysan, la paysanne qui applique les savoirs, peu importe d'où viennent ces savoirs. Donc, le savoir scientifique, par exemple, le savoir technique, ben oui, il est d'une importance cruciale, mais pour moi, ça paraît évident qu'il doit se greffer au savoir paysan et non pas l'inverse, comme on a tendance à le croire. Donc, c'est pas vrai que c'est nécessairement que c'est le savoir technique qui doit prédominer et qu'on doit faire fi de tout autre savoir qu'on peut peut-être greffer un peu à ce savoir technique. Non, il faut partir, selon moi, de l'expérience paysanne qui, surtout dans un contexte agroécologique où on a une expérience paysanne qui est une expérience de gérer quelque chose de complexe sur le long terme.
Et vous parlez d'un changement de paradigme, on pourrait en fait parler d'une transformation d'ordre ontologique, c'est-à-dire de transformer nos relations avec le monde, avec les êtres vivants, avec le lieu, avec le territoire, dans une perspective qui est plus liée à l'écoute, au respect, à l'attention. Puis un peu avec ce que vous nous dites, là, il serait facile de penser que l'agroécologie consisterait en quelque sorte en une forme de retour en arrière, un refus de la technologie ou de tout ce qui pourrait rendre le travail plus facile. Pourtant, l'invention est tout à fait au cœur des cultures paysannes, mais il s'agit toujours d'inventions intimement ancrées dans un territoire.
Je pense que le rendre la vie plus facile aux paysans, aux paysannes, c'est fondamental. Hein? Le travail agricole, c'est extrêmement exigeant. Puis en fait, si on était un peu plus de gens à produire notre propre nourriture, peut-être que notre rapport à l'agriculture changerait. En tout cas, je suis convaincu qu'elle changerait beaucoup. Mais il faut quand même, donc il ne faut pas refuser la technologie, on en a besoin, mais il y a différentes questions qu'on peut se poser, dont celle-ci, je pense, mais au service de quoi on la met, cette technologie? Est-ce qu'on la met, donc, au service d'une entreprise, au service, par exemple, d'une industrie pétrolière ou d'une industrie pétrochimique à travers les intrants qu'elle va fournir à l'agriculture, ou on la met au service de la santé des sols, au service de la qualité de l'eau, au service de la biodiversité, au service d'un climat qui ne serait pas changeant comme le nôtre actuellement, puis même aussi au service d'un aménagement territorial qui convient aux humains qui l'habitent. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas oublier le labeur de ceux et celles qui nous nourrissent, qui est très important, et donc qui ont besoin d'un équipement, qui ont besoin de techniques, qui ont besoin parfois de technologies qui peuvent être perfectionnées pour les appuyer dans leur travail, ça c'est certain.
Et qui sont toujours aussi eux-mêmes en train d'innover. Je pense à un ami qui cultive tout près de chez nous puis qui invente à chaque année pour pallier à des problèmes qu'il y avait eu l'année d'avant, des nouveaux outils, des nouvelles manières de faire. Je pense que ça doit être quelque chose qui se retrouve aussi partout puis qui fait en fait que des techniques se développent à différents endroits, se diffusent vraiment autrement que par les voies de l'industrie qui vend la même machine à tout le monde, en fait.
Oui, ça, c'est fondamental. Hein? Les agriculteurs, les agricultrices se sont adaptés beaucoup au cours des dernières décennies. Ils ont changé, ils ont adopté des nouvelles cultures, des nouvelles façons de faire. Ils le font constamment. Puis, d'ailleurs, c'est la même chose aussi pour les agriculteurs qui préfèrent ou qui vont pratiquer une agriculture de type industriel. Il ne faudrait quand même pas, je pense, les voir uniquement comme des victimes, comme on a tendance à le faire. Je veux dire, ils participent aussi, comme vous et moi, d'un certain progrès. Puis, ils vont innover aussi dans leur pratique. Ils peuvent croire aussi à certaines façons de faire. Puis, leur façon de faire, ils peuvent être appropriés, des fois, dans le contexte sociaux, culturels et politiques dans lesquels ils se trouvent. C'est important quand même de le souligner. Quand on produit des aliments, il faut bien vivre. Si on a des politiques qui vont dans telle direction ou si économiquement on favorise telle culture ou telle autre, bien c'est sûr que ça va influencer nos pratiques.
Mm-hmm. Et on sent, en lisant votre livre, que l'humilité, en fait, face à la complexité des écosystèmes, notamment dans la posture scientifique, et aux réalités diverses est quand même une posture vraiment essentielle pour l'agroécologie. Pouvez-vous nous parler un peu de cette posture et qui semble avoir une place importante dans les pratiques de l'agroécologie?
On a, je le disais tout à l'heure, on a, je pense, artificialisé beaucoup les choses en agriculture au cours des dernières décennies. Puis la nature, quand même, fait assez bien les choses. On n'a pas trouvé mieux que la photosynthèse pour séquestrer du carbone jusqu'à maintenant, qui est un processus assez ingénieux. On pourrait énumérer beaucoup de choses. L'eau qu'on boit ne dépend pas de nous, dépend de la nature. L'air qu'on respire, mais ce n'est pas nous qui le fabriquons. Puis d'où cette humilité là, que vous mentionnez, qui je pense est importante. La nature fait bien les choses. Et donc, en agroécologie, on va essayer de favoriser les équilibres écologiques, notamment. On va s'assurer que le sol est en santé, qu'il est en vie, c'est-à-dire que tous les agents, qu'ils soient microbiens, animaux ou autres, qu'on y trouve, puis qui jouent un rôle important dans la décomposition de la biomasse, dans le recyclage des éléments nutritifs qui sont ensuite absorbés par les plantes, soient bien actifs. On va se préoccuper de la biodiversité aussi, celle de ce qu'on peut appeler les auxiliaires de culture, par exemple les pollinisateurs qui vont nous aider, donc qui vont aider à la pollinisation et donc à la production de fruits ou de graines dans certains cas, qui vont aussi s'attaquer dans d'autres cas aux ravageurs de nos récoltes, donc à travers des équilibres qui sont complexes. Donc en agroécologie, effectivement, on va s'intéresser beaucoup à des relations de coopération, par exemple, de mutualisme, de symbiose, plutôt que de vouloir, par une artificialisation, essayer de donner à la plante cultivée ce dont elle a besoin à travers des produits de synthèse, par exemple.
Oui, parce qu'il fait partie de l'imaginaire de l'agriculture de se dire que en fait, toute espèce qui est présente à un même moment sur un même territoire est en concurrence l'une avec l'autre. C'est un peu l'idée qu'on a d'enlever toutes les mauvaises herbes qui sont sur une parcelle qu'on veut cultiver pour une fin donnée. Mais en fait, avec l'agroécologie, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement le cas, qu'il y a une coopération entre les différentes espèces de plantes, entre les plantes et les insectes, entre certaines espèces fongiques et les plantes.
Oui, on s'en rend compte dans les écosystèmes forestiers, par exemple, il n'y a pas si longtemps, on voyait encore les arbres comme des êtres isolés les uns des autres. Puis là, on se rend compte qu'ils sont reliés, tous ensemble, par exemple, par des relations mycorhiziennes, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux de filaments, de champignons qui unissent les arbres entre eux. Puis que ces arbres-là vont se communiquer un certain nombre d'informations qui vont pouvoir s'échanger des éléments nutritifs, par exemple. On sait de plus en plus qu'on fait face à un écosystème complexe où les relations sont entre les différents êtres qui l'habitent sont très importantes et que ces relations-là ne sont pas seulement des relations de prédation, de compétition ou de concurrence, mais sont souvent des relations de coopération et jusqu'à la symbiose.
Et ça pose énormément de questions, parce que là, on regarde ça d'un point de vue agricole, mais on pourrait également regarder de la manière dont sont composés, par exemple, nos milieux urbains et de la manière dont, justement, sont intégrés les arbres, c'est-à-dire dans des petits compartiments, isolés les uns des autres, avec aucune, en fait, diversité, aucune capacité à étendre leur réseau racinaire. Donc, ça pose énormément de questions, en fait, sur ce que vous pointez souvent comme étant de l'anthropocentrisme, en fait. On va prendre une courte pause, Alain-Olivier, puis revenir pour poursuivre cette discussion tout de suite après. Donc, merci.
À tout à l'heure.
Comme ça?
Mais ça fait des vidéos?
Ouais, je peux filmer, ouais. Vas-y.
Ouais?
On est de retour pour cette discussion avec Alain-Olivier, donc auteur de La Révolution agroécologique. On a parlé avant la pause des relations qui impliquaient cette posture également du monde agro-industriel qui s'y oppose, si on peut dire. Et donc, on a parlé également de notre imaginaire, imaginaire agricole qui est marqué par, au niveau de l'agriculture, de vastes champs, donc des prairies monoculturelles composées de plantations à hauteur et à couleur similaires, toutes alignées et bien contrôlées. Mais à quoi ressemble, Alain-Olivier, une culture agroécologique?
Dans une culture agroécologique, hein, c'est un peu tout le contraire. Un des éléments qui est vraiment important, c'est la diversité. Diversité pourquoi? Parce qu'on cherche une biodiversité qui va pouvoir accomplir toutes les fonctions normales, naturelles d'un écosystème dans la mesure du possible. C'est sûr qu'on l'adapte un peu, hein, parce qu'on veut nous nourrir, nous, plutôt que certains autres êtres vivants. Quand on fait de l'agriculture, ben c'est ça, il y a quand même une priorité qui est donnée à l'être humain dans l'approvisionnement en nourriture. Mais donc, on veut quand même une agriculture durable et donc cette biodiversité-là est importante, autant pour ce qui est des organismes qu'on va appeler auxiliaires, hein, qui vont aider la production. Ça peut être des insectes dits utiles, ça peut être ce qu'on appelle parfois des mauvaises herbes, mais qui peuvent être utiles parce qu'elles vont donner de la nourriture à des pollinisateurs, par exemple. Mais c'est aussi une biodiversité dans le champ, donc on va favoriser les associations de culture, avoir 2, 3, 4, 5 plantes en même temps, par exemple, sur la même parcelle, associer aussi ces cultures à des arbres, dans le cas de ce qu'on va appeler l'agroforesterie, par exemple.
Vous parlez beaucoup justement de l'importance des arbres dans les espaces cultivés. Quel rôle est-ce qu'il peut jouer l'arbre dans sa coprésence avec, par exemple, des plantes en agriculture?
Mais ce qu'on se rend compte de plus en plus quand on arrive à bien connaître les systèmes agroforestiers, c'est-à-dire ces systèmes donc où on cultive des plantes et des arbres en même temps, puis qu'on associe parfois aussi à l'élevage, c'est que ben qu'on va avoir très souvent un meilleur rendement si on met les arbres et les cultures ensemble que si on les sépare. Ce qui veut dire que si on veut par exemple une culture céréalière donnée, puis on veut du bois de peuplier, bien, on peut les cultiver séparément, mais si on les met ensemble et qu'on le fait correctement, qu'on trouve le bon agencement, bien, on va avoir besoin de moins d'espace pour faire les deux. C'est sûr qu'il y a une partie du rendement qui va aller à l'arbre, mais cet arbre-là, bien, comme dans le cas du peuplier ou d'un autre arbre, là, peut être intéressant d'abord par ses produits. Hein, ça peut être du bois, évidemment, c'est la première chose à laquelle on pense quand on pense aux arbres, mais ça peut aussi être des fruits, des noix, des produits médicinaux. Mais en plus de ça, l'arbre va avoir un rôle environnemental important parce que, notamment en raison de son système racinaire qui est souvent plus développé, mais va aller puiser profondément dans le sol des éléments minéraux qui peuvent être dans la roche-mère, qui auraient été inaccessibles pour les cultures qui sont enracinées plus superficiellement. Les ramener dans ses tissus, après ça, par la litière de feuilles, par les racines qui se décomposent, bien, ça va venir enrichir le sol, ce qui va pouvoir permettre une meilleure production agricole. Mais grâce à cette matière organique-là aussi, bien, le sol va mieux retenir l'eau, par exemple, va aider à mieux la drainer quand elle est en excès. Il y aura aussi, grâce à l'architecture de l'arbre, bien, des habitats pour des oiseaux, pour des insectes, donc une meilleure biodiversité. L'arbre séquestre du carbone, ce qui va aider à lutter contre les changements climatiques. Puis, il y a toutes sortes de rôles à l'arbre aussi qui sont de nature sociale, culturelle aussi. Il contribue à avoir un paysage qui est peut-être plus intéressant que celui de champs de maïs à perte de vue, par exemple, sur des centaines ou des milliers d'hectares. Donc, et ça, c'est un élément qui est pas négligeable, lui non plus. Hein. On a une relation en tant qu'être humain à l'arbre qui est souvent quand même relativement proche. Puis même économiquement, c'est intéressant. Il y a plein d'études qui démontrent que des terrains similaires avec des maisons similaires en ville n'auront pas la même valeur selon qu'on y trouve des arbres ou non. En fait, les terrains avec des arbres vont avoir une plus grande valeur. Les gens seront prêts à payer plus parce que c'est un milieu de vie qui est plus stimulant puis qui est plus intéressant pour le bien-être des gens qui habitent la maison en question, pour leur bien-être aussi bien psychologique que physique.
Mm-hmm. On tente donc, en quelque sorte, de rompre avec l'agriculture comme affirmation de la domination sur l'espace, qui semble très présente quand un champ est considéré comme propre. Vous avez parlé, par exemple, du maïs. Donc, lorsqu'on cherche à avoir un cultivar désiré. L'agroécologie fait donc délibérément entrer un aspect sauvage dans l'agriculture. Contre les logiques de contrôle, de la géo-ingénierie à la modification génétique, est-ce qu'on peut dire qu'on réaffirme d'une certaine manière le caractère indomptable de la Terre?
Bien, je pense effectivement que, en raison de l'importance accordée notamment aux équilibres écologiques, dont les êtres humains font d'ailleurs partie, bien, on remet un petit peu l'être humain à sa place. Hein. On a joué un petit peu aux apprentis sorciers au cours du dernier siècle notamment. Dans nos approches industrielles, on a cru qu'on pouvait utiliser l'énergie donc à outrance, qu'on pouvait se servir de pétrole tant qu'on voulait sans que ça ait d'impact, qu'on pouvait polluer les cours d'eau, les océans, qu'il n'y aurait pas de limite finalement. Puis on se rend compte que ben, en faisant ça, on est venu altérer ce qui est à la base même de notre existence. Je le disais tout à l'heure, hein, l'eau qu'on boit, ben, c'est la nature qui nous la fournit à travers des équilibres, des cycles bio-géochimiques qui sont très complexes puis qui unissent le sol, les plantes et l'atmosphère notamment, ainsi que les êtres humains. Même chose pour l'air qu'on respire. Donc, y a des éléments qu'on ne peut pas facilement changer. Il faut, faut être capable de le reconnaître en tant qu'être humain qu'on fait partie d'équilibres qui, à un moment donné, nous dépassent jusqu'à un certain point. Puis si on ne veut pas l'accepter, bien, ce qu'on se trouve à faire très souvent, c'est assez destructif.
À la fin de votre livre, là, on parle d'un déplacement du dualisme nature-culture ou d'une reconsidération de ce dualisme-là, mais à la fin de votre livre, vous nommez aussi que l'agroécologie peut changer le rapport de la ville à la campagne, par exemple, ou au début de votre livre, le rapport du champ et de la forêt. C'est des dualismes qui sont très importants pour notre compréhension du monde. Pour vous, est-ce qu'on peut parler d'une certaine réconciliation de ce qui a été, de ce qui a été arraché l'un à l'autre, peut-être?
Oui, mais je pense que jusqu'à un certain point, l'agroécologie cherche à réconcilier l'être humain avec les autres êtres vivants et aussi les générations suivantes. C'est-à-dire qu'on a une seule planète et la moindre des choses, entre autres, ce serait de faire en sorte que cette planète-là soit aussi belle dans 50 ans qu'elle l'est maintenant. On a une responsabilité à cet égard. On a une responsabilité aussi envers d'autres êtres vivants qui partagent avec nous cette planète, y compris des êtres humains qui souvent en souffrent. Hein. On le disait tout à l'heure, il y a 800 millions de personnes qui souffrent de la faim et peut-être 1 ou 2 milliards supplémentaires qui souffrent de carences alimentaires. C'est pas rien, là. Il y a quelque chose quand même d'assez indignant là-dedans. Donc, cette idée de réconciliation, elle est présente, puis elle est présente à travers des gestes tout simples aussi, comme des relations plus proches, privilégiées entre ceux et celles qui produisent la nourriture puis ceux et celles qui la mangent. Donc, on cherche, par exemple, à avoir une agriculture soutenue par la communauté, par exemple. Donc, à faire en sorte qu'il y ait des liens étroits entre la personne qui produit et la personne qui mange pour, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être raccourcir cette distance entre le rural et l'urbain. Je parle de distance pas seulement physique, mais psychologique aussi et affective, parce qu'en milieu urbain, bien, très souvent, on ne comprend pas ce que les agriculteurs et les agricultrices vont faire. On ne comprend pas toute la difficulté de leur travail. On ne comprend pas tout le temps qu'ils vont investir dans ce travail pour nous nourrir d'une certaine façon. Puis il y a peut-être quelque chose, déjà au départ, il y a peut-être quelque chose de très injuste au fait qu'une petite proportion de la population va nourrir tous les autres, qui vont bénéficier de tout ça, d'une nourriture qui est quand même la base de l'existence grâce au travail de quelques-uns qui, malheureusement, est souvent très, très peu rémunéré. et en tout cas qui n'est sûrement pas valorisé tel qu'il devrait l'être.
Mmh, il y a quelque chose dans le milieu urbain qui est effectivement peut-être de l'ordre de l'aliénation en fait des réalités territoriales, paysannes, ou qui relève de toutes ces relations-là qu'on doit entretenir avec la terre pour nous nourrir. Et ça nous amène peut-être, comme pour le dernier segment de l'émission, à traiter une question qui nous est quand même chère à l'émission, qui est celle de l'accès à la terre, oui, et peut-être de la souveraineté. Dans la révolution agroécologique, vous traitez brièvement des difficultés d'accès à la terre, comme à l'eau ou aux semences, pour ceux et celles qui aimeraient cultiver dans une approche plus respectueuse du vivant. Pouvez-vous nous expliquer un peu les grandes dynamiques actuelles par rapport aux terres agricoles du Québec et peut-être justement qu'est-ce qui empêche des petits paysans ou d'avoir accès à la terre?
Bien, c'est sûr qu'on a observé au cours des dernières décennies, ça fait quand même assez longtemps, là, une concentration de la production de plus en plus importante. Hein, le nombre de fermes au Québec comme dans plusieurs autres pays a décru considérablement avec le temps. Puis on a assisté à une spécialisation, à une artificialisation aussi de nos systèmes de production. Puis tout ça fait en sorte que l'accès est devenu de plus en plus difficile pour les gens de la relève qui veulent se lancer en agriculture. L'agriculture industrielle demande des moyens qui sont extrêmement importants. Donc, quand on a besoin d'équipements très, très dispendieux, de bâtiments, d'un cheptel animal, parfois de quotas de production, bien, ça fait en sorte que le plus souvent, on doit des centaines de milliers, sinon des millions de dollars à sa banque. Et commencer sa carrière, je dirais, de producteur agricole avec des dettes qui dépassent le million de dollars, bien, c'est peut-être pas super attirant pour des gens qui aimeraient produire des aliments pour nous. Donc, il est clair qu'il y a un enjeu important au Québec comme ailleurs de relève. Mais cela dit, il faut, je pense qu'il faut vraiment profiter du fait qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui qui innovent, qui s'intéressent à la production alimentaire, qui se lancent en agriculture et d'autres qui veulent le faire. Donc, il faut les aider à avoir les moyens de le faire. Et pour plusieurs, bien, ça passe par d'autres approches qui correspondent non seulement à leurs valeurs, à leur façon de voir l'écologie, notre rapport à l'environnement, mais qui passent aussi économiquement par d'autres façons de faire, des façons de faire où on consacre moins de revenus à des intrants qui viennent de l'extérieur, où on dépend moins aussi d'un marché qui soit international ou national, et où on dépend moins de toutes sortes d'intermédiaires, que ce soit des transformateurs ou des distributeurs ou des détaillants. Donc, d'où cette idée aussi de proximité entre les gens qui produisent la nourriture puis les gens qui la mangent, qui est extrêmement importante. Je dirais donc qu'il y a actuellement beaucoup de jeunes qui innovent en agriculture. Moi, je trouve ça d'ailleurs qu'ils ont souvent un projet vraiment emballant à nous proposer. Mais malheureusement, on les appuie très, très peu, notamment à travers des politiques là, qui ne sont pas nécessairement appropriées, puis y compris là, en matière d'accès à la terre.
On est pris un peu dans une situation de double contrainte, au sens où, d'une part, le panier d'épicerie pour se nourrir augmente très, très rapidement. Entre autres, cette année, on a vu qu'il avait augmenté très rapidement. Et le prix du foncier augmente aussi à une vitesse qui est encore plus ahurissante. Puis j'ai l'impression que le problème foncier au Québec, ou la question de comment la terre est répartie, est en train de devenir de plus en plus politique. Là, on voit il y a de plus en plus de mouvements menés par des communautés autochtones qui revendiquent le retour de leur territoire traditionnel. On peut penser par exemple à ce qui se passe en Colombie-Britannique ou en Ontario, mais ça nous concerne aussi au Québec. Et bon, il y a de la spéculation internationale sur les terres agricoles, il y a de l'accaparement des terres en ville, à la campagne. C'est toujours un nombre de plus en plus restreint de propriétaires ou d'exploitants qui possède le foncier. De ce point de vue-là, le petit nombre de vaillants, de vaillantes qui cherchent à se mettre à l'agroécologie ne semble pas nécessairement faire le poids. La question foncière, ça a toujours été une question qui a été ramené lors des mouvements révolutionnaires. Vous avez appelé votre livre « La révolution agroécologique ». Au niveau du foncier, est-ce que on peut envisager qu'il y aurait des mobilisations qui pourraient faire tourner le vent, en fait, en ce qui a trait à la répartition de la terre au Québec, au Canada?
C'est une question très importante. Une petite précision quand même avant de commencer sur pour la question du prix des aliments. Hein. Je pense qu'il est important d'être conscient qu'il y a très peu de ce qu'on paye pour les aliments qui va à l'agriculteur ou à l'agricultrice qui les produit. Donc ça, c'est une première chose. Donc dans la réalité, on paie très peu pour nos aliments, en tout cas pour la portion production de nos aliments.
Puis, oui, je voulais plutôt dire qu'on est dépendant des deux côtés, en fait, que soit on paye plus cher pour la terre si on veut produire pour nous-mêmes.
Je sais pas si vous voyez un peu. Oui, mais ce que je veux souligner par là, tout simplement, c'est que donc les paysans, les paysannes sont peu payés, mais par ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer ces aliments. Et donc, il y a vraiment un enjeu de lutte à la pauvreté qui est très important, qui est sous-jacent. Et donc, cette question de lutte à la pauvreté, et de lutte aux injustices, elle est fondamentale. Puis d'ailleurs, elle fait partie beaucoup des revendications des mouvements paysans. Puis, une autre revendication importante, vous l'avez souligné, c'est celle de l'accès à la terre. Donc, comment avoir accès à la terre? Je ne suis pas un spécialiste nécessairement de ces questions. Au Québec, il y a toutes sortes de formules qui sont essayées, des fiducies foncières, par exemple. Dans d'autres pays, on va tenter des réformes agraires. Maintenant, la sécurité d'accès à la terre peut venir dans des régimes privés, mais ça peut aussi être présent dans certains systèmes collectifs, ou en tout cas, ça l'était traditionnellement, par exemple, en Afrique de l'Ouest, là, où des propriétés collectives de la terre, avec un aménagement, une gestion qui était faite collectivement, pouvaient donner une certaine sécurité d'accès. Mais il est clair que tout ça, ça souligne l'importance de questions politiques aussi. L'accès à la terre, c'est primordial. Il y a énormément de paysans et paysannes sur la planète qui n'ont pas accès à cette terre et qui se retrouvent en fait maintenant manœuvres agricoles pour de grands propriétaires terriens qui vont s'accaparer la majeure partie des profits.
Et donc, comme on le voit bien, en fait, si les lois sont faites pour aller vers un agrandissement ou plutôt un accaparement incessant des terres agricoles par l'agro-industrie et non pas de leur fragmentation et de leur diversité vers peut-être des cultures paysannes, c'est en quelque sorte parce que c'est plus avantageux du point de vue de la gouvernance étatique. Et donc, la solution ne passe-t-elle pas par une fragmentation des terres? Et si c'est le cas, comment penser s'en remettre aux différents paliers de gouvernement dans ce contexte?
C'est sûr qu'il faut faire attention quand on parle de fragmentation. Je pense que, on fait souvent référence à la loi sur la protection du territoire agricole qui a quand même eu quelque chose d'extraordinaire comme portée, qui était de protéger quand même plusieurs terres agricoles qui, sinon, auraient fait l'objet de spéculation ou qui aurait été destiné à d'autres usages. Il en demeure pas moins que, on se trouve maintenant dans un contexte un petit peu différent où certaines personnes auraient besoin de terres peut-être un peu plus petites pour faire certaines activités de production agricole. Ce qui veut dire que, donc, une certaine fragmentation de grandes terres pourrait être souhaitable pour eux. Il faudrait quand même que ça se fasse en respectant le caractère agricole de ces terres-là. Là, je pense qu'il y a un enjeu majeur qui est là, mais c'est sûr que de plus en plus de gens qui veulent faire l'agriculture autrement réclament la possibilité d'avoir accès à la terre. Et ça peut vouloir dire accès à des terres qui ne sont pas nécessairement des terres qui s'étendent sur des centaines ou même des fois des milliers d'hectares, mais des terres plus petites qui peuvent permettre de nourrir une famille quand on ne met pas en œuvre toutes les mêmes pratiques que celles de l'agriculture industrielle actuellement, quand on ne s'endette pas, par exemple, de la même façon qu'on doit le faire actuellement pour produire.
On peut penser, par exemple, à ce qui pourrait arriver avec les terres d'essor de la charité. Hein. À Québec, c'est assez difficile d'avoir une place dans un jardin communautaire, mais certains parlent quand même de garder ces terres-là dans une vocation agricole assez traditionnelle, en fait, alors qu'on est dans un contexte urbain où des tonnes de modèles intéressants pourraient être essayés, peut-être.
Oui, bien, en tout cas, moi, je trouve qu'avec les terres d'essor de la charité, on a vraiment une opportunité vraiment super qui s'offre à nous de tenter des expériences d'agriculture urbaine intéressantes. Puis c'est clair pour moi qu'il faut y aller vers des pratiques de type agroécologique, vers des pratiques d'agriculture biologique. On est en plein milieu urbain, on ne va pas faire une agriculture avec des pesticides. On est aussi dans un milieu avec toute une collectivité qui est présente. Donc, ce qu'on a besoin, c'est pas d'un unique producteur qui ferait tout le travail. Il faut prendre acte du fait qu'on a toute une communauté intéressée par ces terres, toute une collectivité. Et donc, je sais pas quelle sera la formule qui sera privilégiée, puis je sais pas exactement quels devraient être ses contours, mais il m'apparaît clair qu'il faut un travail, des initiatives qui sont collectives, qui sont communautaires. Ces terres-là, ils ont des dimensions publiques et collectives qui est importante.
Et ça va vraiment... potentiellement des tonnes de monde qui sont prêts à la travailler collectivement, cette terre-là aussi, puis à avoir quelque chose à en ressortir qui peut être bon pour la collectivité.
Ben oui, puis il peut avoir de la formation, il peut, en fait, en tout cas, il y a toutes sortes d'avenues là, qui se présentent. Puis j'espère qu'on va la saisir pour qu'il y ait une réflexion véritablement collective sur le devenir de ces terres-là, sur les façons de les cultiver, mais aussi sur la façon de s'assurer de, je dirais, de la propriété, mais en tout cas de voir foncièrement qui va en bénéficier, qui va la cultiver, puis d'essayer de faire tout ce travail-là collectivement.
On va suivre le dossier attentivement, puis évidemment, on va s'assurer qu'il n'y ait pas un accaparement agro-industriel qui se fasse dans le secteur de Beauport. Alain-Olivier, merci énormément pour le temps alloué à cet entretien. On peut lire La révolution agro-écologique publiée aux éditions Éco-Société pour en savoir plus sur cette pratique. L'émission sera en rediffusion vendredi à 11h sur les ondes de CKIA. Il est également possible d'écouter les épisodes en balado via le www.contre.media ou encore le anchor.fm. Merci Michael, merci TP et on vous souhaite une très belle fin de journée.